Il semble que l'apôtre Paul a résumé en une seule phrase toute la différence qui existe entre la vie d'un chrétien et la vie d'un incroyant lorsqu'il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Pour l'apôtre, la vie n'est pas seulement envisagée dans son ensemble, avec ses grandes étapes, l'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse. Il la voit plutôt d'une manière plus concrète, comme une succession de jours, chacun avec un matin et un soir, chacun avec son lot de pensées, de conversations, d'actions, d'événements, de promesses, de sentiments et de sensations. Et il dit qu'il y a deux manières de vivre cette vie-là. Nous pouvons croire ce que nous voyons ou voir ce que nous croyons. Marcher par la vue ou par la foi. Ce sont deux manières de vivre qui sont radicalement opposées. Leur but est différent, ainsi que leurs espérances et leurs affections. Différent aussi, et forcément, le niveau auquel ces deux manières de vivre se situent, ainsi que leur interprétation des choses et des événements. L'incroyant trouve qu'il est plus logique de ne croire que ce qui frappe ses sens. « Je ne crois que ce que je vois », déclare-t-il farouchement avec un air de défi. Le chrétien l'irrite parce qu'il prétend fonder toute sa vie sur des choses qu'il n'a pas vues. Il accumule des certitudes sans preuve. C'est pourquoi il le trouve crédule, voire superstitieux, en tout cas illogique. Il est vrai que du point de vue strictement scientifique, sur le plan de l'expérience pure, la foi du chrétien en la résurrection du Christ, fondement même de sa vie, est un défi à la raison. Mais il a quand même choisi de croire sur parole ceux qui déclarent avoir vu et entendu et touché, et qui ont transmis au monde le message du ressuscité. Le chrétien a accepté les commandements du Christ. Comme gage de sa foi et de sa confiance, il a pris la résolution de donner à sa vie une nouvelle orientation, celle que lui indique le Christ. C'est encore en Christ qu'il s'est fait baptiser pour le pardon de ses fautes. De ce fait, il est sorti des ténèbres pour entrer dans la lumière. En lisant la Bible, on ne manque pas d'être frappé par la fréquence de ce thème « ténèbres-lumière ». Dans son évangile, Jean déclare que le Christ, parole de Dieu, était la véritable lumière. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le chrétien est donc celui qui a choisi de se laisser inonder par la lumière du Christ. Il croit tout ce qu'il lui dit, tout ce qu'il lui promet. Il est devenu un être éclairé par en haut. « Je suis la lumière du monde », déclare le Christ. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Plus tard, il dira encore « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Plus tard encore, l'apôtre Paul rappellera aux chrétiens de la ville d'Éphèse « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » De même, l'apôtre Pierre écrit « Il vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Le propre de la lumière, c'est de permettre de voir clair. Dans la vie du chrétien, la lumière, c'est essentiellement la parole de Dieu et l'œuvre de l'Esprit en lui. Elle est donc avant tout connaissance et vie. Il sait que derrière l'apparence des choses de ce monde existent des réalités invisibles et éternelles. Dieu lui a prêté ses yeux, par sa parole, pour lui permettre de voir en profondeur et de loin. Parce qu'il est éclairé, il ne se laisse pas tromper par l'apparence. Il voit ce qui est invisible. « Nous regardons, non point aux choses visibles, dit l'apôtre Paul, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Après avoir joué tout l'après-midi dans la prairie, deux jeunes garçons décidèrent qu'il était temps de rentrer. Chemin faisant, l'un d'entre eux s'étonna de la course relativement rapide du soleil dans le ciel. Tout à l'heure, il était au sommet de ses arbres et le voilà déjà sur l'horizon. Son compagnon lui dit « D'après mon père, il paraît que le soleil ne bouge pas. C'est la terre, au contraire, qui tourne autour du soleil tout en tournant sur elle-même. » L'autre trouva cette explication tout à fait fantaisiste, bien à l'image des adultes qui compliquent tout. Car enfin, ne voyait-on pas clairement avec les yeux le soleil faire sa course dans le ciel tous les jours, d'est en ouest? Et puis, quand on tourne autour du soleil tout en tournant sur soi-même, ça doit bien se sentir. Et lui ne sentait rien, et n'avait jamais rien senti de semblable. Et il conclut, « Ton père a dû se tromper, ou bien tu l'as mal compris. » Il n'y a pas longtemps que le monde des adultes même raisonnait encore de cette manière. il fallut les lumières révélatrices d'un Copernic, la science d'un Galilée, pour révolutionner le monde. Encore fallut-il longtemps à Galilée et maintes épreuves pour faire accepter ses conclusions au reste des hommes. De même, lorsqu'un homme accepte les paroles du Christ, ses jugements, ses préceptes, ses commandements, lorsqu'il prend au sérieux son œuvre, ses promesses, ses avertissements et son diagnostic à l'égard du monde, toute la vie de cet homme se trouve changée. Il ne voit plus les choses ni la vie de la même manière. Lorsque le vieux Siméon, au temple de Jérusalem, reçut le petit enfant dans ses bras tremblants, cette scène aurait paru banale, tout juste, attendrissante, aux yeux d'un quelconque témoin. Mais Siméon était au comble de l'émotion, car cet enfant qu'il tenait dans les bras était le salut du monde annoncé par les prophètes. Les apparences n'étaient pourtant pas de nature à signaler la présence dans le temple de Jérusalem, ce jour-là, du roi des rois, seigneur des seigneurs, parole de Dieu faite chair. Prenons un autre exemple. La mort est considérée comme le terme absolu, inexorable de toute vie. Elle n'épargne personne. Devant elle, l'homme est impuissant. Il peut parfois retarder l'échéance de quelques mois, quelquefois de quelques années, mais elle aura finalement la part qu'elle réclame. Le chrétien n'envisage pas cet événement avec crainte ni avec résignation, parce que la parole de lumière lui a appris comment il fallait le considérer. Il est écrit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. A-t-on oublié ces mots étonnants devant le tombeau de Lazare ? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour celui qui a prononcé ces paroles, et pour celui qui y croit, la mort, fin de tout, la mort néant, la mort cessation absolue de toute existence n'existe pas. Il est très significatif à cet égard que Jésus ait dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller ». Chers amis, ce sont des paroles qui parlent à nos cœurs. Notre Seigneur les a prononcées, elles sont donc vérité. Avec le regard clair de la foi, nous pouvons savoir que l'éternité ne commence pas avec la mort. Dès à présent, nous vivons dans l'éternité. Cette aventure que nous appelons la vie revêt simplement après la mort une forme nouvelle, infiniment supérieure à la forme première. C'est le grain de blé qui, après avoir été planté en terre, est devenu l'épi magnifique. Quant à sa vision du monde en général, le chrétien sait qu'il ne subsistera pas toujours. Malgré ses apparences de puissance, malgré son savoir et ses réalisations grandioses, malgré son aspect invincible, inébranlable, permanent, le chrétien sait que ce monde disparaîtra selon le décret de Dieu. « Ce qui arriva du temps de Noé, dit Jésus, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. » Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Prévoyant notre curiosité à cet égard, l'apôtre Paul écrit « Pour ce qui était temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Pour terminer, je voudrais lire une partie de la première lettre de Pierre, aux chrétiens dispersés dans l'Empire romain. Vous verrez combien ces paroles sont toujours vivantes, combien elles nous touchent directement. Vous noterez en particulier que les premiers destinataires de ces phrases, comme nous, n'avaient jamais vu le Seigneur. Et voyez comment l'apôtre les encourage à marcher par la foi et dans la joie, et quelles sont les raisons qu'il invoque. Vous verrez que cette lecture, comme c'est souvent le cas, vaut mieux qu'un commentaire de ma part. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.